Toulouse.
Bonsoir.
Ça y est, la liste est bouclée ?
Ça y est, la liste est bouclée. Elle a été déposée vendredi matin en préfecture. On attend le récépissé officiel, mais ça ne saurait tarder. Et donc, pour la troisième fois, je conduirai cette liste aux élections municipales après 2008 et 2014. Et je suis assez fier de conduire cette liste parce qu'elle est à l'image du monde du travail. Il y a des ouvriers de l'automobile comme moi, il y a des ouvriers de la chimie, du bâtiment, il y a des aides-soignantes, il y a des secrétaires, il y a des infirmiers, des enseignants. Enfin, c'est à l'image du camp des travailleurs qu'on a envie de faire entendre dans ces élections municipales.
Ce qui est frappant, c'est quand on regarde la sociologie des autres listes qui se présentent, elles ne correspondent absolument pas à la sociologie de la population mulhousienne qui est à plus de moitié ouvriers employés, alors que sur les listes, les ouvriers en paix, soit ils sont totalement absents, soit ils sont vraiment à dose homéopathique.
Oui, j'ai vu quelques. Alors, j'ai pas regardé toutes les listes, mais notamment, ce qui est assez marquant, je trouve, c'est la liste de La République en marche, Lara Millon, qui, quand même, j'ai l'impression, essaye de faire oublier qu'elle représente le parti présidentiel, pour moi, le parti des riches, quoi. Et c'est vrai que quand on voit la sociologie de sa liste, c'est pas à l'image des quartiers populaires de Mulhouse, ça, c'est sûr.
Très bien, alors venons-en à nos questions. La première que l'on pose à tous les candidats, ça trait à un vrai problème qui est aussi un problème de pouvoir d'achat, qui est celle des transports. Transports dans Mulhouse, mais aussi transports dans l'agglomération, et qui touche avant tout les gens qui n'ont pas de voiture ou qui ont, s'ils doivent prendre leur voiture, c'est aussi un coût, etc. Donc le schéma d'aménagement du transport à Mulhouse n'a fait quasiment que des mécontents, y compris dans les salariés de Soléa. Alors, est-ce que vous, dans vos perspectives, vous intégrez, par exemple, la gratuité des transports?
Ce qui est impressionnant déjà quand même, c'est que dans ces élections, que ce soit à Mulhouse, mais même dans d'autres villes en France, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de candidats là qui sont en train de se repeindre en vert et qui ont l'air de se soucier tout à coup des transports collectifs et peut-être de leur gratuité. Enfin, je crois que j'ai entendu la maire actuelle qui promet la gratuité pour les plus de 65 ans. En 6 ans de précédent mandat, je l'avais pas entendu proposer ça. Là, on sort quand même enfin, d'un appel d'offres pour Solea, enfin, c'est Transdev, il me semble, avec plus de 2 millions d'économies à faire. Et du coup, c'est encore une fois des transports qui sont. Ben c'est un service dégradé, quoi, de plus en plus, avec des quartiers qui sont mal desservis, des horaires mal desservis, avec non, un réseau de transport collectif qui n'est pas à la hauteur. Donc, le problème du transport, en réalité, moi je serais pour la gratuité des transports collectifs en général. J'irais même plus loin en parlant du train, en parlant de tous ces transports-là. Alors, évidemment, vous me poserez la question du financement et vous auriez bien raison, parce que dans cette société, le problème du transport, c'est un peu comme celui de la santé, comme un peu celui de l'éducation, c'est-à-dire tous ces services qui pourraient être utiles, qui sont utiles à la population, il y a quand même. De la part de ce gouvernement, parce que c'est à l'échelle du pays qu'il faut quand même y réfléchir aussi, de la part de ce gouvernement comme de ses prédécesseurs, c'est comment attaquer méthodiquement tous ces services utiles à la population, ce qu'on peut appeler les services publics, pour financer de plus en plus les capitalistes, quoi. Quand on parle des 40 milliards de CICE qui ont doublé en un an, enfin, qui sont transformés du coup en dégrèvements. Mais cet argent-là, on le prend où? Enfin, ça veut dire qu'ils le prennent. Oui, la situation dramatique des hôpitaux et les transports, ça en fait partie. Donc, évidemment, il faudrait des transports gratuits. Il y a bien des travailleurs qui utilisent notamment les bus ou les trams pour se rendre au travail. On peut favoriser le vélo. J'entends aussi certains dire, et bon, bah, moi j'utilise le vélo à Mulhouse, donc je vois bien le problème du vélo aussi. Maintenant, on peut l'utiliser jusqu'à un certain point, mais sauf qu'aujourd'hui, avec le chômage qui augmente, avec la difficulté à trouver du boulot, Bah, il y a bien des travailleurs qui doivent prendre leur véhicule individuel pour aller travailler, et j'en sais quelque chose à PSA. Ils suppriment aussi des lignes de transport de PSA, puisqu'il y a des lignes de bus. Donc le problème du transport collectif, il se pose évidemment, mais il ne peut pas se poser indépendamment de tout le reste, c'est-à-dire y compris comment on le finance, et puis aussi de tous ces services qui sont utiles à la population.
Oui, traditionnellement, depuis quelques temps déjà, on pose la question de, enfin, une question qui ne se pose plus à Mulhouse, une question qui interroge la nature de la démocratie en pratique, en fait, et notamment la vérifiabilité de la démocratie. À Mulhouse, on est dans une situation où une ville de 100 000 habitants, plus de 100 000 habitants, utilise encore un système de vote électronique qui est désavoué partout ailleurs. En Europe, aussi bien en France d'ailleurs, il reste une soixantaine de villes qui utilisent encore ce type de système. Et à Mulhouse, depuis plus de 10 ans, des gens, des citoyens isolés, se battent contre ce truc-là, puisqu'ils appellent, enfin, ils considèrent que c'est une boîte noire, qu'elle n'est en rien vérifiable, qu'elle n'est en rien transparente, et qu'elle mette la démocratie en question en tant que telle. Enfin, du fait de ces machines. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'opportunité d'en finir, en fait, avec ces moyens technologiques complètement aberrants et dépassés du point de vue démocratique?
Alors, pour vous dire franchement, je pense que je m'étais jamais vraiment posé la question du vote électronique et du fait que ça pourrait être un problème, en dehors du fait que je crois que c'était pour les dernières élections européennes où il y avait énormément de listes. Je sais que sur un écran, bien des personnes avaient du mal, notamment des personnes qui ont du mal à lire, des personnes voilà, qui se retrouvent toutes seules devant leur écran là
Des
pour
personnes
voter.
qui veulent voter nul, par exemple,
Ouais,
ou pas.
il y avait aussi ce cas-là. Donc, y a des scrutins où c'était vraiment compliqué de l'utiliser. Et bon, et du coup, j'apprends aussi qu'il y a un certain nombre de villes qui ont fait marche arrière, ou un certain nombre de pays qui ont fait marche arrière. Donc, c'est qu'il doit y avoir évidemment un problème derrière. Moi, je serais d'avis. J'ai pas forcément un avis tranché comme ça. Je serais surtout d'avis de demander l'avis de la population. Et sans doute que la population dirait on veut revenir en arrière à un système plus voilà qu'on connaissait avant. Mais moi pour moi la démocratie au sens large, ça serait vraiment demander l'avis de la population sur tous les sujets qui l'intéressent quoi, et donc sur celui-là aussi, parce que j'entends beaucoup parler de démocratie locale, mais il y a plein de problèmes qui se posent. Il y a aussi alors, c'est pas directement lié aux machines, évidemment aux machines électroniques, mais le droit de vote des étrangers. On aurait du mal, évidemment, à en discuter à l'échelle d'une ville, mais il se pose, et d'autant plus dans une ville comme Mulhouse, avec centaines de nationalités, je crois, avec une population d'origine immigrée très importante. Si on parle de démocratie, faut balayer un peu tous les sujets, quoi. Et la démocratie. Et puis, bon, le type de scrutin, c'est quand même la prime à celui qui sort en premier, hein, les élections municipales. Donc,
Vous seriez pour
une
une
proportionnelle
proportionnelle
intégrale.
intégrale.
Les rares fois où il y a des proportionnelles, je ne sais même plus si c'était intégral, mais à un moment donné, pour les européennes, il y avait une bonne dose proportionnelle, ce qui avait permis d'ailleurs à Lutte ouvrière. Et d'ailleurs, qui avait fait une liste commune à l'époque avec la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Krivine, on avait eu des élus au Parlement européen. Le scrutin d'après, la loi avait complètement changé. Bon, alors évidemment, certains diront la proportionnelle intégrale, ça favoriserait aussi des partis qui sont à l'opposé complet de nous, notamment je pense au Rassemblement national. Mais aujourd'hui, je vois que les modes de scrutin privent quand même une partie des organisations politiques d'une voix dans la représentation politique. Mais sur les machines à voter, oui, je pense qu'il faudrait demander l'avis de la population, et c'est bien possible que.
Par un autre moyen que le moyen électronique.
Évidemment, par un autre moyen.
Très bien. Bon, autre caractéristique de Mulhouse, au-delà des machines à voter, c'est une très grande pauvreté. Et une des villes les plus pauvres de France, et cette pauvreté, quand on regarde les chiffres, n'a pas baissé, au contraire, elle a même légèrement augmenté pendant la période Lutz-Rottner. Donc, un des moyens ou une des raisons de cette pauvreté, c'est également le chômage, parce qu'il y a parallèlement à la pauvreté un taux de chômage beaucoup plus important à Mulhouse que dans la moyenne nationale. Alors, donc ça pose la question non pas du traitement social de la pauvreté qui est sûrement quelque chose à envisager, mais celle de la relance économique en termes de commerce, d'industrie, pour des emplois, parce que bon, le meilleur moyen de combattre la pauvreté, c'est quand même que les gens puissent gagner leur vie correctement en ayant un emploi. Quelle est votre idée là-dessus et vos propositions ?
Mais est-ce que déjà les gens, enfin, les classes populaires, arrivent à gagner leur vie suffisamment déjà avec un emploi? Enfin, on a vu toute l'année 2019 le mouvement des Gilets jaunes qui a quand même posé, au-delà de sa diversité, il a posé quand même le problème du pouvoir d'achat, en tout cas au départ. Et on assiste quand même, de manière générale, à une politique du gouvernement et des patrons qui essaient de tirer, alors le gouvernement, le pouvoir d'achat, mais aussi les salaires des fonctionnaires, hein, qui sont gelés depuis des années, et les patrons qui bloquent les salaires dans le monde du travail. Donc le problème principal, il est quand même celui des salaires qui sont trop bas, des pensions de retraite qui sont aussi attaquées, des allocations chômage là qui vont... On va avoir le plein effet à partir du mois d'avril. On ne peut pas discuter de relance de l'activité économique si déjà on ne discute pas de comment on est payé, et puis comment on vit, et puis comment on crée des emplois et comment on les finance. Bon, c'est tout ça, c'est aussi lié. Parce que moi, je, dans cette campagne-là, j'entends certains dire il faut relancer le commerce du centre-ville, il faut aider les commerçants. Bon, alors c'est une autre variante de la politique qui consiste à dire il faut aider les entreprises pour qu'elles puissent embaucher, il faut les exonérer de cotisations sociales ou les aider de mille et une manières. Des entreprises qui s'implantent, il faut les accueillir gratuitement. Enfin, bon, et j'en passe. Le résultat, c'est quoi? C'est que ça fait des décennies qu'on mène cette politique-là, enfin que les gouvernements mènent cette politique, et, y compris à l'échelle locale ou régionale. Et que ça se traduit quand même par une augmentation du chômage, quoi. Moi, je travaille dans une des plus grandes entreprises de la région, si ce n'est la plus grande, PSA Mulhouse. Rien que pour l'usine, c'est 15 millions d'euros d'aide publique l'an dernier. 15 millions d'euros d'aide, alors que les effectifs n'arrêtent pas de baisser, qu'ils ont encore viré 1000 intérimaires en 3 mois. Tout ça, c'est encore des jeunes qui se retrouvent sur le marché du travail, ou plutôt le marché du chômage, parce qu'en réalité... Quand PSA vire du monde, et ben c'est toute une ribambelle de sous-traitants derrière qui trinquent aussi. Donc c'est là on est face aussi à un gouvernement qui nous dit il faut travailler plus avec la taxe sur les retraites, et puis la tendance c'est aussi à gagner moins, quoi. Donc comment si chacun travaille plus, faut qu'on m'explique comment on peut résorber le chômage. Et si on veut résorber le chômage, si on veut créer de l'emploi, il faut partager le travail. Alors on dit ça coûte de l'argent. Ok, ça coûte de l'argent, mais alors les 87 milliards de bénéfices des entreprises du CAC 40, ça sert à quoi dans cette société, et tout le fric qui est fabriqué par notre travail? Et puis on nous dit voilà, il faut accepter de faire des efforts, vous allez gagner moins. Ben là c'est pareil. Mon salaire, moi, il est bloqué depuis des années, mais c'est le cas de bien des travailleurs, de la plupart des travailleurs dans ce pays. Eh bien, si nos salaires sont bloqués, si nos pensions de retraite ne sont pas revalorisées, comment est-ce qu'on peut consommer plus et comment est-ce qu'on peut relancer l'activité économique comme ça? C'est assez hypocrite quand même de tous ces discours de dire il faut relancer l'activité alors que on est en train de faire crever à petit feu. Enfin, c'est quand même assez... Ça fait quelques années maintenant, mais de plus en plus, on voit des reportages ou même autour de nous, des gens qui bossent et qui s'en sortent pas au point des fois de vivre dans leur voiture, au point de pas avoir de quoi remplir le frigo à partir du 15 du mois, ou de payer les factures, des interdits bancaires. Moi, à l'usine, j'en vois de plus en plus, des gens qui bossent.
En gros, avoir un emploi ne suffit absolument pas. Aujourd'hui, le phénomène des travailleurs pauvres est en train de démontrer qu'il ne suffit pas d'avoir un emploi
ça suffit pas du tout, parce que les salaires ont complètement décroché. Et puis, moi, je vois des intérimaires, ils sont à peine au SMIC. Il suffit qu'il y ait du chômage technique, il suffit qu'il y ait des mesures comme ça, et c'est même en dessous de 1 000 euros. Comment, avec une famille, comment on vit avec 1 000 euros quand on a un loyer à payer, quand non, c'est... Et pourtant, on vit dans une société qui est riche, sauf que, encore une fois, ben, l'argent, il va pas dans les bonnes, pas dans la bonne direction. Il est capté par une minorité de capitalistes. Et c'est cette politique-là qu'il faut dénoncer. Alors, évidemment, ça ne se réglera pas à l'échelle d'une ville, mais ceux qui promettent ça, eh ben, je pense qu'ils racontent des mensonges, parce que c'est un rapport de force. Et en fait, c'est une lutte de classe là, qui est menée par les capitalistes à l'échelle de la société. Hein, eux-mêmes le disent. Et en face, eh ben, voilà, moi je suis de ceux qui sont convaincus que le camp des travailleurs, il doit se défendre déjà. Il le fait depuis un certain nombre de mois, et là, ces dernières semaines, contre la réforme des retraites. Mais il faut qu'il continue à le faire et qu'il l'exprime dans ces élections municipales.
Oui,
Mario.
on parle un petit peu culture. Mulhouse est une ville que Loïc Millery, qu'on a interrogé il y a quelques jours, qualifiait de ville en archipel culturel avec des pôles voués effectivement plutôt aux classes populaires et d'autres plus circonscrits, plus prestigieux, qui sont plutôt voués aux plus aisés. Qu'est-ce qu'on fait pour dynamiser la politique culturelle? Le secteur culturel à Mulhouse, et on pense notamment à la jeunesse, en particulier au cinéma. Le Palace qui est en grande difficulté, le Bel Air qui demande à s'agrandir. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce point de vue-là?
Il y aurait sans doute beaucoup de choses à faire pour la culture. Après, évidemment, le problème se pose toujours du budget, du financement. Moi, j'ai en tête, alors c'est pas à Mulhouse, hein, mais j'ai en tête là, justement, dans les dernières semaines, pendant la mobilisation contre le saccage des retraites, de concerts à l'Opéra de Paris sur le parvis, les musiciens qui sortent. C'est génial, enfin,
Les
moi je trouve ça,
danseurs,
les danseurs,
danseuses.
c'est comme ça que je conçois la culture en tout cas. Alors une fois qu'on a dit ça, on a rien dit parce que le problème se pose toujours, mais une culture à portée de tout le monde. Moi, à Mulhouse, j'adore scène de rue. Chaque année, je fais le plein pendant 3-4 jours parce que c'est aussi comme ça que c'est cette culture-là qu'il y a dans la rue, qui est gratuite, qui est à la portée de tous. Alors ça suffit pas. C'est sûr qu'après, il y a plein d'autres endroits, les théâtres. Quand on est, je sais pas, quand on est ouvrier, quand on est RSA, quand on a une petite retraite, bah oui, aller se payer une place d'opéra à la filature, j'en vois pas beaucoup, quoi. Hein. C'est un budget, c'est aussi sans doute pas une préoccupation, parce que justement, quand on est à l'euro près, on va pas les payer. Et même le cinéma, quand je vois le prix du cinéma aujourd'hui, ben il faut se le permettre. Je sais qu'au boulot, souvent ça discute de ça. Bon, bah ben, une sortie avec les deux enfants le dimanche pour aller voir un film, c'est tout de suite 40, 45 euros ou plus pour aller au ciné. Donc c'est quand même aussi toujours un problème de niveau de vie, de préoccupation, de financement, et ça doit se. Enfin, bon, je pense que la culture, elle est encore trop tournée vers un milieu un peu élitiste, quoi, un peu, voilà, un peu privilégié, et d'autant plus dans une ville comme Mulhouse, où il y a quand même une grande partie de la population qui a de plus en plus de mal à vivre correctement. Donc. Ce qu'on pourrait faire exactement, c'est difficile de répondre comme ça, mais en tout cas, il faudrait aussi prendre l'avis de la population de ce qu'ils aimeraient comme type de culture. Est-ce que c'est plus de cinéma? Est-ce que c'est du théâtre à portée de tous? Est-ce que c'est bon d'autres choses? Je ne sais pas. Mais ça peut pas être simplement. Enfin, moi, je pense, hein, mais c'est sur ce sujet comme sur tous les sujets en réalité, ça peut pas être simplement une équipe municipale qui décide dans son coin de l'offre culturelle. Il faut que ça soit, pour moi, une mairie véritablement, en tout cas comme je la conçois, une mairie ouvrière. Elle poserait tous les problèmes à la population et elle essaierait de trouver des solutions en lien avec les travailleurs, avec leurs associations, avec leurs syndicats, parce que c'est comme ça que ça pourrait fonctionner.
Passons à un autre sujet. Mulhouse est une métropole, une cité située en Alsace. Est-ce que, et vous l'avez fort justement dit, avec une forte présence plurielle de nombreuses cultures et de nombreuses origines, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Mulhouse vit un peu en vase clos alors qu'il y a tout autour d'elle des espaces peut-être intéressants avec lesquels on pourrait travailler, y compris on est frontalier, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne. Est-ce que vous n'avez pas un peu ce sentiment qu'on néglige un peu ces opportunités qui pourraient être peut-être positives aussi sur le plan culturel, mais pourquoi pas sur le plan économique? C'est pas un gros mot en soi.
Mais j'ai l'impression que c'est peut-être un problème qui se pose à Mulhouse, mais c'est un problème en réalité qui se pose partout. Enfin, j'ai l'impression quand même que de plus en plus, on va vers un repli sur soi, vers plus de... Alors ici, on le ressent pas forcément, parce que bon, les frontières avec l'Allemagne et la Suisse sont pas fermées, comme comparé à d'autres endroits en Europe, mais quand même, il y a... Moi, j'ai l'impression aussi que cette société qui quand même est en train de se casser la figure, ou en tout cas toutes ces classes sociales, là, les classes populaires qui ont de plus en plus de mal, on est en train de leur expliquer, en tout cas il y a tout un courant réactionnaire là qui prend de l'ampleur, et l'étranger c'est tout de suite le concurrent, l'adversaire, enfin celui qui va venir prendre notre boulot. Bon, moi ces idées-là je les combats. Je les combattrai toujours, parce que je pense qu'au contraire, là, il y a une richesse qui doit être apportée par ce mélange, par cette mixité. Il y a une travailleuse sociale qui expliquait qu'il y avait une centaine de nationalités à Mulhouse, mais qu'elles étaient plus justement juxtaposées, ces cultures différentes, que entremêlées. Et moi, je travaille à la chaîne au montage, à Peugeot. Il y a une quarantaine de nationalités différentes. Ça parle toutes les langues. C'est vivant. J'ai été invité chez des collègues afghans à manger. J'ai été invité. Bon, enfin, c'est un partage, quoi. Et donc, ce qui se passe à l'échelle d'une usine, là, quand des ouvriers travaillent ensemble sur une ligne de montage à faire le même boulot et avoir besoin les uns des autres pour faire ce boulot, parce qu'on est tous dépendants les uns des autres. Eh ben moi, je conçois une société où ça pourrait fonctionner comme ça, hein, où justement, on n'est pas les étrangers l'un pour l'autre, mais on est une même communauté d'êtres humains, et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Alors, c'est sans doute aujourd'hui une vision idyllique, dans le sens où... Il y a quand même tout un courant d'idées, encore une fois, qui cherche à nous diviser.
Vous craignez un score important du Rassemblement national?
Bien sûr, je le crains parce qu'on assiste à une montée du Rassemblement national ces dernières années. Donc c'est sans doute... Ça veut pas dire si 25-30% des lecteurs à Mulhouse votent Rassemblement National, ça ne veut pas dire que 25-30% sont racistes, mais ça veut dire que c'est une manière sans doute de sanctionner le gouvernement, de sanctionner aussi toute une partie de la classe politique qui, depuis des années et des années, promet à tout va, mais finalement continue dans la même voie politiquement, je veux dire, à créer des inégalités, à toujours plus, à favoriser les plus riches dans cette société, et ça on le constate tous, hein, et certains pensent qu'en votant Rassemblement National, ils mettront un coup de pied dans la fourmilière, sauf qu'ils se trompent lourdement, et moi je m'adresse à eux en leur disant qu'ils se tirent une balle dans le pied, vraiment, en votant pour leurs pires ennemis. En tout cas, quand on est un travailleur, quand on est un chômeur, quand on est un retraité pauvre, on ne peut pas voter pour un parti qui nous divise à ce point, et qui a juste un objectif, c'est d'aller à la mangeoire, soit municipale, soit enfin, à d'autres échelons, mais qui mènera la même politique en pire.
Passons à un autre sujet. On a l'impression que dans ces élections municipales, tout le monde veut être plus vert que vert. Est-ce que cette question de l'environnement, vous pensez que c'est un vrai sujet, ou est-ce que c'est un leurre pour... masquer d'autres difficultés dont on parlerait moins, je pense entre autres aux difficultés sociales.
Ben moi, je vois ça chez certains comme un leurre. Le vert, c'est une tenue de camouflage et certains, ça leur va très bien pour justement ne pas parler de leur bilan ou ne pas parler de quand la Ramillon est investie par Macron. Ben oui, je pense que elle n'a pas envie de parler du bilan de la politique de Macron depuis qu'il est au pouvoir. Bon, donc c'est parler d'écologie, parler d'environnement, ça évite de parler du reste. Sauf que, bon, ben c'est. Et puis c'est lié aussi au récent score, je pense, des écologistes aux élections. Et certains, tout d'un coup, se voient, voilà, se voient plus vert que vert, quoi. Mais
Encore
bon.
que 15% aux européennes, est-ce que c'est vraiment un score qui est aussi important que ça? Est-ce que c'est pas plutôt une vraie inquiétude
Il y a une vraie inquiétude.
voilà.
Il y a une vraie inquiétude dans la population. Moi, je parlais de ces politiciens qui se repeignent en vert à l'occasion des élections municipales. Mais ceci dit, bien sûr, il y a une vraie inquiétude qui est complètement justifiée, qui est complètement. Quand je vois la jeunesse qui marche pour le climat, quand je vois justement toutes ces mobilisations, elles sont complètement justifiées parce que la planète. Elle est en train de crever, littéralement, quoi. Et on la fait crever parce que, d'après moi, on continue d'avoir une économie qui est complètement tournée vers le profit, vers le profit à court terme, sans se soucier du tout des conséquences que ça a sur la planète, sur l'écosystème, sur le réchauffement, sur tout ça. Et donc, mais on se pose pas les. Je considère qu'on ne se pose pas les vrais problèmes, ou en tout cas, pas suffisamment, parce que si on ne remet pas en cause notre façon de considérer l'économie, notre façon de produire, notre façon de. Eh ben, la planète n'ira pas mieux, quoi. Et on continuera à la foutre en l'air. Enfin, je dis on, c'est pas on, hein, mais. C'est un peu. Je trouve ça un peu facile de pointer du doigt des responsabilités individuelles en disant prenez votre vélo et faites le tri de vos déchets ou faites votre compost, si d'un autre côté, on laisse les capitalistes. Mettre la planète à feu et à sang avec leur production, avec leur façon de déforester, avec leur façon de. Bon, enfin, des exemples, il y en a plein. Quand je vois. Alors, c'est à l'autre bout de la France, mais ce qui s'est passé avec Lubrizol, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique et en même temps, c'est révélateur de cette société où, malgré les signaux d'alarme, malgré tout ça, on laisse polluer. Il y a même maintenant des. Il y a des permis de polluer, donc il y a, je crois, 7 000 sites en France, 7 000 sites industriels qui sont pollués ou qui vont polluer
D'ailleurs, c'est bien que vous en parliez parce qu'il y en a un qui dépend directement de la ville de Mulhouse, qui est la décharge de Lieselacker à Kingersheim, où on a recouvert tout ça, mais il s'avère qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont alerté, nous-mêmes à l'Alterpresse, on en a beaucoup parlé, c'est qu'il y a de l'enfouissement de résidus de l'indane, qui est un insecticide fabriqué à l'époque par Pechiney, Eugène Kullmann, et qui a enterré ses déchets là-dedans. Et aujourd'hui, la question de ressortir ces déchets se heurte à un problème de coût, alors que il est maintenant avéré que le risque de pollution de la nappe phréatique est réel. Alors, est-ce que vous, à la mairie, vous direz qu'il faut mobiliser des moyens et peut-être des forces pour exiger la sortie de ces produits, je rappelle encore une fois, produits par une usine?
Ben oui, mais déjà c'est révélateur du fonctionnement de cette société où on laisse des industriels polluer et on leur demande pas de compte. C'est ça le véritable problème. Enfin, le problème, évidemment, le problème premier, c'est qu'ils polluent, mais c'est qu'on prend les problèmes à chaque fois une fois qu'ils se posent, quoi, ou quand c'est trop tard, parce que quand la pollution est là, on va pas les récupérer la nappe phréatique, hein, mais. Évidemment qu'ils devraient rendre des comptes, évidemment qu'ils devraient payer. Enfin, c'est quand même assez incroyable cette société où alors on peut produire n'importe comment, n'importe quoi et polluer, et puis ensuite c'est à la collectivité d'éponger. Mais ça commence à bien faire. Moi, j'ai souvenir de ICMD, l'entreprise chimique, qui était, j'habitais à 100 mètres quand elle était encore en activité. Ben, on se prenait des odeurs dans la figure, on ne savait jamais ce que c'était, mais donc les odeurs qu'on avait dans la figure, fallait imaginer ce que c'était au niveau du sous-sol, un peu plus, à quelques dizaines de kilomètres, c'est Stocamine. Je veux dire, c'est plein d'exemples comme ça d'un vrai problème aujourd'hui qui se pose pour l'environnement si on continue de laisser l'économie dans les mains d'une minorité qui n'a absolument rien à faire des conséquences sur la planète, quoi.
Une question encore, Julien, vous êtes une tête de liste donc de lutte ouvrière pour les municipales de Mulhouse. Si vous êtes élu à Mulhouse, les pouvoirs d'une municipalité aujourd'hui, quelle que soit sa taille, sont de plus en plus quand même soumis à l'intercommunalité. C'est-à-dire que des décisions importantes comme les transports, par exemple, ne relèvent plus de la commune, mais relèvent de l'intercommunalité, et qui est encore une fois un éloignement du citoyen, des décisions du citoyen. Et elles s'imposent en fait à la commune. Or, on a vu ces derniers temps, au sein de M2A, qui est donc la communauté commune de Mulhouse, des oppositions, est-ce que c'est des oppositions d'ego ou est-ce que c'est plus fondamental, entre la ville centre Mulhouse et sa périphérie, des autres communes. Est-ce que pour vous, il faudrait revenir à des relations plus apaisées entre la ville et la communauté de communes?
Alors moi, je vous dirais, c'est pas pour botter en touche, hein, mais moi, les gens que je rencontre là, dans les quartiers, parmi les classes populaires, dans cette campagne, ils me parlent pas des relations entre Mulhouse et M2A. C'est pas dans leurs préoccupations. Et moi, je pense que ces petites histoires-là de notables, justement, ça touche sans doute tout un milieu de notables locaux, de ceux qui ont des places à préserver là-dedans ou à gagner là-dedans. Et que c'est bien, bien loin des préoccupations, encore une fois, des classes populaires, de ceux qui cherchent du boulot, de ceux qui dont le salaire ne suffit pas pour vivre. Alors après, il peut se poser des problèmes concrets quand... Quand il y a des décisions qui doivent être prises au niveau de l'intercommunalité, comme vous l'avez dit, mais concrètement, là, cette histoire de j'ai vu un peu, hein, les tensions qu'il pouvait y avoir entre les uns et les autres, mais c'est quand même, en tout cas, moi, ça m'intéresse pas, voilà. Moi, je suis pour la démocratie ouvrière, je suis pour que les travailleurs, ils aient leur mot à dire, et ces histoires de notables, là, c'est bien loin de nos préoccupations.
Et pourtant, juste pour rebondir là-dessus avant de conclure notre entretien, quand on regarde la pauvreté sur l'agglomération, il s'avère quand même qu'il y a un axe de pauvreté qui part de Mulhouse, et Mulhouse est très touchée, qui monte un peu vers le bassin potassique, mais tout autour, il y a énormément de communes qui font partie de la M2A, et qui, elles, ne connaissent pas ce phénomène, et qui sont plutôt des communes aisées. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, qu'il y ait plus de solidarité entre ces communes? Et là, c'est peut-être le rôle de l'intercommunalité, même si les citoyens ne s'en rendent peut-être pas compte.
Mais si l'objectif, c'est de gérer la misère avec les moyens qu'on a, ça va être de plus en plus compliqué, parce que peut-être que ces communes-là sont pas touchées aujourd'hui, et peut-être que les communes que vous citiez sont plus touchées quand il y a un certain nombre d'industries qui ont fermé, et que le résultat, c'est le chômage qui augmente plus dans ces zones-là, et que on ne réglera pas, des rapports entre villes. S'il y a des inégalités, en tout cas des niveaux de vie différents ou des répercussions différentes, tant qu'on ne prendra pas le problème de manière plus générale. Je veux dire, y a quand même de moins en moins de moyens qui sont mis dans les municipalités et même dans les intercommunalités, parce que l'État met de moins en moins de moyens, parce que, et c'est ça un des problèmes de fond aussi. Enfin, je veux dire, quand on parlait tout à l'heure de la relance de l'activité économique, quand le premier employeur aujourd'hui, ici, c'est l'hôpital, et qu'on voit la situation de l'hôpital qui est catastrophique, la situation des urgences, c'est tous ces sujets-là, il faudrait se battre avec les salariés concernés, y compris je parle de l'hôpital, mais évidemment dans toutes les industries qui sont touchées, parce que on peut pas continuer à avoir cette société se casser de la figure et avoir la pauvreté qui augmente, alors que, encore une fois, à l'opposé de la société, il y a une richesse qui est incommensurable. C'est encore une fois, notre présence aux élections, c'est aussi pour dire tout ça, pour dire que le camp des travailleurs, des chômeurs, des retraités, de tous ceux qui font fonctionner cette société, ils ont leur mot à dire et ils doivent surtout relever la tête, ne pas se résigner et en profiter pour s'exprimer dans cette élection.
Merci Julien Osteen. Donc une tribune pour lutte ouvrière, pour dénoncer les injustices de cette société, pour essayer de les corriger. Eh bien, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.